Maurice Level, Le beau voyage. Le train filait à travers la campagne, et dans son coin, la tempe à la vitre, les mains croisées sur les genoux, sœur Marthe regardait les arbres, les champs coupés de haies trapues, et le ciel d'un bleu si chaud que le soleil semblait y fondre tout son or. Les pommiers en fleurs frissonnaient à peine, les blés verts étaient drus comme un gazon géant, et de la terre montait une telle jeunesse avec un tel parfum qu'on eût voulu s'arrêter là, s'étendre à l'ombre de ces arbres, et voir, sans penser, sans parler, mourir cette lumière, se refermer ces fleurs, et attendre la nuit complice et paresseuse. De temps en temps, on traversait un village aux petites maisons, aux clochers pointus, un passage à niveau où les bœufs patients attendaient les cornes basses sous le joug, et quand on s'arrêtait dans une gare où de loin arrivaient avec des odeurs fortes de ferme des chants de coqs et des pépiments d'oiseaux, sœur Marthe tournait vers sa vieille compagne un visage radieux et s'écriait avec une joie d'enfant « Regardez, regardez, ma sœur !» Tout l'étonnait. La richesse des prés, cette orgie de lumière, la douceur du matin, son propre enchantement, son bonheur de vivre et surtout ce printemps admirable dont la timide floraison d'un jardin de couvent ne lui avait jamais révélé la puissance. Elle en oubliait le regret de son enfance trop calme, la petite angoisse de ses destinées nouvelles, jusqu'à l'émotion du départ. La vieille sœur, la tête inclinée vers l'épaule, lui souriait comme sourit une grand-mère au petit qui s'amuse. « Oui, je regarde, ma sœur, c'est bien joli. » Dans les premières heures, elles avaient causé, essayant d'évoquer les villes vers laquelle la volonté de la maison mère les dirigeait, puis elle s'était tue, reprise par l'habitude du silence, gênée par le ton trop élevé qu'elle devait donner à leur voix pour dominer les roues et le harangue de la machine. Sœur Marthe, ne parlant plus, s'émerveillait encore. C'est qu'on a beau porter cornette et robe grise, faire sonner en marchant les grains d'un chapelet de bois, pencher son front vers les malades, la jeunesse conserve ses droits, et les lèvres de 20 ans sourient à toute chose, et le bon Dieu permet qu'on s'attendrisse devant le monde qu'il créa. Ainsi, courant, soufflant, la machine allait, emportant avec elle les espoirs égayés de la petite nonne, et les souvenirs résignés de la vieille religieuse. Vers 5 heures, le train s'arrêta. Sur le quai de la gare, des gens s'affairaient. Des soldats, rentrant de congé, couraient, cherchant des places libres. En coup de vent, un jeune homme et une jeune femme sortirent des salles d'attente, montèrent dans le compartiment et on repartit. Le soleil bas éclairait les champs de rayons obliques qui faisaient les ombres plus longues et le ciel d'un bleu presque gris. La gaieté du matin prenait plus de douceur et l'alanguissement du soir grandissait avec le mystère des bois plus lointains et des plaines moins vertes. La vieille religieuse s'assoupit, les jeunes gens se rapprochèrent. Sœur Marthe cessa de regarder par la portière, leva les yeux, les détourna, puis remit son front à la vitre. Sans doute la rapidité de la course, l'approche d'une rivière ou la fraîcheur de crépuscule la firent frissonner, car le jeune homme, devinant le geste frileux de ses épaules, se leva et remonta la glace entr'ouverte. Elle le remercia d'une inclinaison de tête et de nouveau contempla la campagne. Mais de temps en temps, fatiguée de voir des champs toujours pareils, des arbres dont les branches s'estompaient et l'horizon moins clair, Ses yeux erraient machinalement autour d'elle, de la religieuse assoupie dont le corps tressaillait à chaque chaos, jusqu'au couple qui parlait à voix basse. Parfois, on entendait des rires, des lambeaux de phrases chuchotées. Une grande honte la prenait d'avoir écouté, et son regard fuyait très vite vers le paysage, lourd de la vision de ce couple heureux et le posant sur les champs assombris. Et peu à peu, son bonheur du matin s'en allait. Une vague tristesse descendait en elle. Puis les traits menus de son visage devinrent sévères, son front se pencha. Sous les larges manches, ses mains froides cherchèrent la tiédeur de ses poignets, et apercevant ses pieds chaussés de gros chaussons qui dépassaient sa robe, elle rougit et plia les genoux. Tout le jour, elle s'était faite une fête de voir venir le crépuscule. Dans l'enchantement du beau voyage au seuil d'une existence nouvelle sur tant de soleil, elle était redevenue toute petite, sans souvenir et sans pensée, grisée d'air pur et de lumière. Maintenant, une gêne, presque une peur, pesait sur elle. La sensation d'être un pauvre être perdu la gagnait. L'ombre lui semblait du noir. Le recueillement de la solitude, le calme du silence. Ses yeux se fixèrent sur la vieille religieuse, elle songea « comme elle dort bien ». Puis sur les jeunes gens qui, se tenant les mains, parlaient à peine. Elle ne songea pas, mais détourna la tête. Au loin, des troupeaux entraient lentement. Pour tromper son ennui, elle essaya de compter les bêtes. Mais le paysage n'avait plus son attrait. C'était l'heure grave où les nuages attristent la fin des plus beaux jours, l'heure proche du repos, l'heure où les pauvres diables s'inquiètent d'un gîte pour la nuit, où les petits enfants sans abri rêvent de bons repas et d'une chambre tiède et d'un sommeil qui viendrait les surprendre avec des chutes attendries de maman. Les jeunes gens, épaule contre épaule, se laissaient aller au balancement du train. Sœur Marthe les regardait, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, obstinée, inconsciente, reprise par le frisson qui l'avait secouée tout à l'heure. Sans que son esprit glissât la pensée même d'une plainte, elle remontait le cours de sa petite existence si banale, si triste. Elle revoyait les récréations dans la cour trop calme, la douceur uniforme de ses compagnes. Elle entendait l'écho des voix déjà presque oubliées, de ces voix pareilles qui se croisaient, se répondaient, se perdaient comme autant de petites vagues inlassables et vaines. Et mille regrets confus naissaient dans son esprit. La fin de ce voyage lui était douloureuse comme une fin de rêve. Elle ne se souvenait de la joie du matin que pour sentir plus tristement la langueur du soir. Le train courait vers le couchant. Le soleil allait plonger à l'horizon. Au-dessus d'elle, un peu de nuit commençait à descendre. Dans leur coin, les amoureux se rapprochaient encore. Ils ne regardaient pas mourir le soir, eux. L'ombre naissante et leur désir leur dérobaient le monde. Oubliés de tout, se croyant oubliés, ils se penchèrent l'un vers l'autre et Sœur Marthe vit leurs lèvres se joindre. Elle ne bougea pas. Sans colère, sans honte, elle entendit le long murmure de leurs baisers. Seulement, il lui sembla qu'un brouillard étrange, impénétrable, noyait son cœur et que la paix de son âme fondait d'un coup. Un frisson agita sa bouche, sa cornette blanche s'inclina un peu et de grandes larmes descendirent sur ses joues. Alors la vieille religieuse, qui, par hasard peut-être, venait de s'éveiller, la toucha du doigt et lui dit doucement, en confidence, « C'est l'heure de prier, ma sœur. »« Oui, ma sœur, » murmura sœur Marthe. Et dans le mouvement qu'elle fit pour relever la tête, les larmes glissèrent sur sa robe, et ses lèvres soumises tremblèrent sur les premiers mots de sa prière, comme elles avaient tremblé sur son premier sanglot. Le soleil avait disparu tout à fait. Une lueur dorée coulait à l'horizon, et là-bas, vers la ville inconnue, le jour achevait lentement, tristement, de mourir. Maurice Level.